Alors nous continuons nos méditations, toujours dans Marc. Aujourd'hui, je voudrais parler de la transfiguration. Et donc, c'est un passage que nous avions vu rapidement il y a quelque temps. Et si vous regardez le calendrier tous les jours, vous voyez que le 6 août chaque année, c'est la transfiguration. Les gens se demandent ce que c'est, comme l'ascension, comme d'autres choses. Alors, nous allons pouvoir leur répondre si nous avons oublié. La transfiguration de Jésus, c'est en Marc 9, et on va lire surtout donc les versets 2 à 9. Marc chapitre 9, versets 2 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et là, il fut transfiguré, métamorphosé devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie, le prophète donc, et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Jésus prit la parole et dit, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient pas que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent alentour et ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, voilà, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Seigneur, ouvre pour nous le Saint-Livre, qui est toujours ta parole aujourd'hui, capable de redresser, d'affermir, de ramener à toi, de fortifier dans la foi et dans l'amour. Amen. Alors, c'est un épisode qui, même si certains d'entre nous, la plupart, le connaissent, c'est quand même un épisode surprenant dans l'Évangile, à bien des égards. Il y a le changement d'aspect de Jésus. Il a été métamorphosé, est-il dit. Il y a l'apparition de Moïse et d'Élie. Ça, on ne voit ça nulle part ailleurs. Puis il y a leur discussion avec Jésus. Puis il y a l'attitude de Pierre. C'est vraiment mystérieux. Surtout si on le considère de manière isolée. Si on coupe le texte comme on l'a fait de ce qui est avant. Alors, on comprend un petit peu mieux si on se rappelle qu'au début de notre passage, il y a une indication qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Il est dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart seuls sur une haute montagne. 6 jours après. Alors ça m'étonnerait qu'il ne se soit rien passé dans ces 6 jours. Marc choisit de sauter directement à 6 jours et de sauter à notre épisode en signalant un lien très fort avec les paroles précédentes de Jésus. Alors, que dit-il juste avant? Eh bien, il y a le dialogue entre Jésus et les disciples à propos de ce que les gens disent de lui. Que dit-on que je suis? Il y a la confession de foi de Pierre. Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Il y a l'annonce par Jésus de sa mort, de sa résurrection à Jérusalem. Il y a son appel à prendre sa croix, à le suivre. Et enfin, il y a une dernière parole juste avant notre épisode. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu. Donc Jésus parle ici d'un privilège accordé à quelques-uns de voir le royaume de Dieu avant leur mort physique. Et donc tout porte à croire que pour Marc, comme pour Matthieu, comme pour Luc qui raconte le même épisode, eh bien, la transfiguration, c'est l'accomplissement pour quelques-uns de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, de cette parole de Jésus. Ils ont vu le royaume à venir. Et donc, c'est mon premier point. Dans ce texte, nous avons un avant-goût de la gloire éclatante à venir. Ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont le privilège, avant tous les autres disciples, de voir quelque chose du royaume de Dieu dans toute sa splendeur. C'est un peu la différence, ils vont voir quelque chose qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. C'est un peu la différence entre un film qu'on regarderait sur son écran télé ou sur son écran d'ordinateur et le même film en cinéma 3D. Ceux qui aiment bien voir les films en cinéma 3D, c'est un monde différent. Eh bien ici, c'est pareil. Ils vont voir, ils auront une vision glorieuse du royaume de Dieu en 3D, avec Jésus qui est transfiguré, métamorphosé devant eux. Et donc, sur le sommet de cette montagne, trois des disciples ont aperçu une réalité qui n'est pas celle de ce monde. Moïse était mort depuis au moins 1200 ans, peut-être 1400 ans. Élie était mort depuis 800 ans. Et les voilà qui apparaissent et qui parlent à Jésus, tout frais. Il ne reste plus aucun support matériel pour leur corps, mais les voilà vivants, les voilà identifiables, puisqu'ils sont reconnus par les apôtres. Et les voilà qui parlent avec Jésus. Voilà quelque chose de construit. Et ils ne sont pas dissous, on va dire, dans le grand tout cosmique, comme disent les religions à la mode. Ils ne sont pas réincarnés entre-temps sous la forme d'une otarie, d'une puce, d'une fourmi ou d'une ménagère de moins de 50 ans. Ils ne sont pas réincarnés sous la forme de Jésus-Christ ou d'un autre chef religieux, comme le prétendent d'autres sectes. Ils sont là les mêmes, mais transformés profondément. Ils sont reconnaissables et capables d'entretenir donc une relation avec d'autres. Ils sont vivants, mais transformés. Et c'est tellement réel, c'est pas des fantômes, c'est tellement réel, c'est tellement concret, que les trois disciples sont transis de peur. Et Pierre pense que l'expérience va durer et qu'il va falloir pérenniser les choses, qu'il va falloir construire des tentes. Et donc, il a dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. C'est comme s'il avait dit, on est bien ensemble, on va s'installer pour faire la dînette. Alors, c'est réel, mais ça veut dire que c'est réel, mais ça le dépasse complètement. Réel, mais complètement. Ça le dépasse complètement. L'autre monde existe, il est réel, mais il nous dépasse complètement, nous qui sommes de ce côté-ci du monde. La nuée lumineuse qui vient couvrir alors le sommet est le symbole de la présence glorieuse de Dieu. Et c'est à ce monde-là, qui appartient à Dieu, qui émane de Dieu, que Moïse et Élie appartiennent désormais. Ils sont visibles, mais seulement un instant seulement. C'est un avant-goût du ciel. Et les disciples qui ont été choisis sont les mêmes, c'est important de le dire, que ceux qui ont été choisis par Jésus pour venir dans la chambre de la fille de Jaïrus pour que Jésus la ressuscite. C'est Pierre, Jacques et Jean. Il faut faire un lien entre les deux. Il n'y a pas de hasard dans l'évangile. Ça veut dire que la transfiguration donne un avant-goût de la résurrection. Et de la résurrection finale, qui sera la nôtre un jour. Et le royaume éternel est réservé, eh bien ici, à trois disciples, mais ça veut dire que le royaume éternel est réservé à tous les disciples de tous les temps, aux croyants, à ceux qui accepteront Jésus comme Seigneur. Voilà ce que nous dit déjà ce texte. Et nous avons bien besoin de cette première, de cet avant-goût sur le ciel. Parce que notre monde, à nous, nous paraît tellement concret. Qu'on a tendance à croire qu'il n'y a rien d'autre. Les pierres sur le chemin sont dures. En haut des montagnes, les nuits sont froides. Et nous appartenons à ce monde-ci, c'est le nôtre. Mais Dieu l'a voulu, et Dieu l'a voulu ainsi. Tant que nous sommes humains, nous appartiendrons à ce monde-ci. Mais il y a un autre monde qui nous attend. Alors ce sera comment ? Eh bien, Dieu, en Jésus, a bien voulu lever un coin du voile, seulement un coin, mais un coin du voile qui nous suffit, qui doit nous suffire. Et donc Pierre, Jacques et Jean ont eu un avant-goût de la gloire éclatante à venir, celle que le Christ manifestera au dernier jour, celle qui nous est promise en tant que disciples de Jésus et de croyants, si nous lui appartenons. Mais, et c'est là mes trois prochains points, la gloire de cet épisode donc est déjà là. La question est donc, en quoi l'épisode de la transfiguration nous fait-il voir le royaume de Dieu pour moi aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que je peux en vivre aujourd'hui de ça? Alors, la première chose, et c'est mon second point, donc, c'est de dire que les trois disciples ont vu sur cette montagne un voile se lever et révéler une gloire cachée, hein, celle du Christ. Et ça nous rappelle que c'est une gloire donc qui se dévoile partiellement pour un temps sur la montagne. Et cette notion de gloire cachée convient bien au royaume de Dieu, hein, dès ici-bas. Hein. Qu'on pense à certaines paroles de Jésus, certaines paraboles de Jésus, qui présentent le royaume de Dieu comme un trésor caché, par exemple. En Matthieu 13, 44, le royaume des cieux ressemble à ceci. C'est un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et le cache de nouveau. Il est plein de joie et il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Donc, comme l'a dit Jésus à de nombreuses reprises, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Il est là, à notre portée, mais il est caché. Il faut le chercher. Et Jésus a dit, cherchez et vous le trouverez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et elle vous sera donnée. À celui qui sait le trouver, sa gloire peut parfois être révélée. Alors comment est-ce que la gloire de Dieu qui est cachée dans ce monde peut être révélée à nous qui sommes ses disciples? Nous vivons quelque chose de la gloire de Dieu. Eh bien, c'est une gloire qui est cachée dans les cœurs humbles d'abord. Cette gloire, elle est vécue dans le service du prochain. Chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un, que nous servons notre prochain, il y a quelque chose de ce royaume caché qui transparaît. Cette gloire du royaume caché se révèle dans la joie et dans la paix qui vient de l'épreuve, qui vient dans l'épreuve. Chaque fois que les chrétiens vivent dans l'épreuve et qu'ils connaissent une joie, une paix, hein, qui n'est pas de ce monde, justement, hein, c'est quelque chose, hein, qui vient d'ailleurs. Hein, c'est quelque chose de cette gloire cachée qui est déjà révélée dans le cœur des croyants. Cette gloire cachée, elle est cette gloire du royaume. Nous en vivons quelque chose dans la prière, hein, quand nous prions de façon secrète, de façon persévérante. Ça ne vient pas de nous. Hein, c'est quelque chose qui est un reflet du royaume qui vient de ce royaume qui est déjà dans notre cœur. Hein. Nous n'avions pas l'Esprit de Dieu dans notre vie, eh bien, nous ne prierions pas de cette façon-là. Hein. Donc parfois, c'est vrai aussi, le royaume de Dieu se manifeste de façon plus éclatante. Hein. Ça peut arriver, hein, dans des interventions de Dieu, des guérisons, des manifestations particulières de sa présence. Mais ce ne sont là que des signes du royaume. Et la plupart du temps, la gloire du royaume reste cachée, hein, comme la gloire du Christ au cours de son ministère terrestre, hein, qui était cachée, hein, sauf pour quelques instants sur la montagne ce jour-là. La gloire du royaume de Dieu est cachée aujourd'hui, parce qu'elle œuvre au profond des cœurs. Elle œuvre pas en apparence. Nous avons le même physique, nous portons tous une cravate le dimanche. Non, il n'y a que moi et Michel. Non, et quelques-uns. Mais je veux dire, c'est pas l'apparence. Ça ne se voit pas à l'œil. Ça, c'est dans le cœur. C'est pour ça. Elle œuvre la gloire du royaume. Elle œuvre au profond des cœurs. Elle s'installe dans des êtres fragiles, les êtres fragiles que nous sommes, et qui restons fragiles en apparence. La gloire du royaume de Dieu est cachée un peu comme un diamant étincelant caché dans un écrin misérable. Et la gloire de Dieu est cachée comme une perle dans une coquille de noix. C'est un peu ce que nous vivons. Et un peu, c'est ce que dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4, 7. Ce trésor de l'Évangile, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Et c'est ce que nous vivons. Hein. Nous portons quelque chose de glorieux qui est déjà du royaume, mais qui est caché dans notre vie quotidienne, sous une apparence toujours de la vie quotidienne. Alors ça, c'est un premier aspect. Hein. C'est dans ces choses-là que nous vivons déjà quelque chose du royaume. Et puis, un deuxième aspect, c'est le roi glorieux. Finalement, qu'est-ce que les trois disciples ont vu sur la montagne ? Eh bien, ils ont vu Jésus-Christ dans sa gloire. Lorsque le royaume de Dieu est pleinement révélé, c'est Jésus-Christ qui est manifesté glorieux. Jésus-Christ dans sa gloire. Et ils n'ont rien compris dans un premier temps. Hein, parce qu'ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse, ils ont vu Jésus-Christ. Et Pierre a dit, on va faire trois tentes, comme si Moïse et Élie étaient égaux avec Jésus-Christ. Non, ils n'ont rien compris. Hein. Il a fallu qu'il y ait la nuée, il a fallu qu'une voix se fasse entendre de la nuée en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, hein, et pas les autres, hein, c'est lui mon fils. Et c'est alors qu'ils n'ont vu que Jésus seul avec eux. Donc, lorsque le royaume de Dieu est pleinement révélé, c'est Jésus-Christ qui est manifesté dans sa gloire. Et la voix de Dieu qui a retenti ce jour-là depuis le ciel a donné un côté solennel à l'événement qui a marqué profondément les disciples. Des années après, Pierre dit en 2 Pierre 1, il parle de cette émotion dans sa deuxième lettre, 11-18, il dit, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées. Lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie ». Or cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, dit Pierre, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc, le royaume et le roi ne font qu'un. Et c'est bon de souligner cela. Fondamentalement, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est Dieu venu au milieu de nous. C'est Dieu devenu homme pour sauver les êtres humains. Et dans l'homme Jésus, la gloire de Dieu est cachée. Le voile levé quelques instants sur cette montagne le manifeste. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans Jésus-Christ. Le Fils de Dieu devenu homme, car le règne de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu parmi les humains et pour les humains. Le royaume de Dieu, c'est l'accomplissement du projet de Dieu pour le monde. Et donc, il y a la sphère de Dieu qui est en dehors de notre portée, c'est le ciel. Et le royaume de Dieu, c'est le ciel qui descend sur la terre, comme la nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse, appelée aussi l'épouse de l'agneau. Alors, on peut retenir cela. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, il faut insister sur le fait que tout notre désir d'entrer dans le royaume de Dieu nous conduit à chercher Jésus-Christ. Puisque c'est Jésus-Christ le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, ce désir doit nous conduire à chercher Jésus-Christ, lui et lui seul, comme Seigneur et comme Sauveur. Puisque le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, toute notre mission en tant que témoin du royaume, c'est d'annoncer Jésus-Christ. C'est ça notre message, annoncer Jésus-Christ. Et puis ça implique que toute notre responsabilité devant Dieu et devant notre prochain, dans notre comportement, c'est d'imiter Jésus-Christ. Puisque le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ, eh bien, notre responsabilité, c'est d'imiter Jésus-Christ. Donc, on peut dire, un chrétien authentique, c'est celui qui cherche le salut en Jésus-Christ, qui annonce Jésus-Christ par toute sa vie, qui l'imite dans toute sa vie également. Jésus-Christ au centre de sa vie. Voilà les conséquences, les réalités qui s'impriment en nous si nous sommes dans le royaume de Dieu. Et ce roi glorieux, entrevu par Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, est donc alors le maître de nos vies, il est le chef de son Église. Alors si c'est ça, être dans le royaume, chercher Jésus-Christ, annoncer Jésus-Christ, imiter Jésus-Christ, c'est aussi renoncer à tout ce qui porte atteinte à la gloire de Jésus-Christ. Nous connaissons quelque chose déjà de la gloire de notre roi. Et dans notre vie, nous voulons renoncer à toute parole, tout acte mauvais qui pourrait ternir la gloire de ce Jésus, hein, le Christ, notre maître, notre chef. Alors, il y a un autre aspect, un dernier aspect qui me semble intéressant de souligner dans cet épisode et qui a des influences dans notre vie quotidienne. Le Christ qui apparaît ici glorieux et éclatant, mais il y a d'autres choses qui contrebalancent cette impression. En effet, la voix de Dieu qui vient du ciel, on l'a déjà rencontrée dans l'Évangile, au début de l'Évangile, avec pratiquement les mêmes paroles prononcées. C'était le jour du baptême de Jésus par Jean-Baptiste au début de son ministère, en Marc 1. Quand Jésus s'est identifié à notre condition humaine, à qui il a été baptisé pour être solidaire de notre péché, pour mourir ensuite pour nous. Et lui qui n'a jamais commis de péché, il se soumet au baptême de repentance de Jean-Baptiste. Et la voix a retenti alors sur la la voix qui a retenti sur la montagne a retenti de la même façon au fond de la vallée du Jourdain au début de son ministère, dans l'humilité du Christ qui se faisait baptiser. Alors, de quoi s'entretiennent ? Et donc, on voit que cette gloire est en rapport avec l'humble service de Jésus. Alors, de quoi s'entretiennent Moïse et Élie avec Jésus ? Eh bien, on a une confirmation avec ça. L'humiliation et la gloire vont ensemble dans le ministère de Jésus. Et ils s'entretiennent de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem et donc de sa mort prochaine à Jérusalem, parce qu'il allait à Jérusalem pour mourir pour nous. Ces deux hommes, Élie et Moïse, ont beaucoup souffert du rejet et de solitude. Et ils pouvaient parler avec Jésus du rejet qu'il allait subir, de la solitude qu'il allait vivre. Moïse a dû s'exiler pendant 40 ans pour échapper à la fureur de Pharaon. Il a souvent essuyé les critiques de ses compatriotes. Il en avait des choses à dire sur le rejet et la solitude. Élie a vécu en fugitif durant tout le temps de son ministère. Il en avait aussi des choses à dire sur le rejet et la solitude. Or, Moïse et Élie discutent avec Jésus de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, de sa mort prochaine à Jérusalem. Donc, ce n'est pas vraiment glorieux. Moïse et Élie, c'est la loi et les prophètes aussi, ce que Jésus-Christ évoquera aux disciples d'Emmaüs pour dire que la loi et les prophètes annonçaient les souffrances et la gloire du Messie, Luc 24. Donc, la gloire du royaume de Dieu passe nécessairement par l'humiliation de la croix du Christ. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Même sur le mont de la transfiguration, ce message est là, déjà. Plus tard, le Christ ressuscité portera sur son corps les marques de la croix. Et dans l'Apocalypse et dans les apparitions de Jésus, on voit le Christ ressuscité qui peut dire « Voyez mes mains, voyez mes plaies transpercées. » Jusque dans l'éternité, il sera l'agneau immolé. Dans l'Apocalypse, le Christ apparaît comme l'agneau debout, mais qui a été immolé. Apocalypse 5, 6. Donc le royaume de Dieu, c'est l'humiliation et la gloire. C'est la gloire et l'humiliation. Alors ça a un impact dans notre vie de tous les jours. Dans notre façon de vivre le royaume de Dieu, ce que nous pouvons déjà en vivre, donc on ne peut pas échapper à la case humiliation, ça veut dire. Il y a des chrétiens qui croient que la vie chrétienne, c'est la case gloire. Non, la gloire complète, ce sera un jour la résurrection. Mais tant qu'on est sur terre, et si on fait partie du royaume de Dieu, on ne peut pas échapper à la case humiliation. La case humiliation, c'est celle des épreuves, par exemple, des difficultés de la vie, qui sont incontournables et que nous ne choisissons pas. Nous passons par ce genre de choses. La case humiliation, c'est celle de la repentance, du retour à Dieu, qui nécessite parfois des choix douloureux. Et ces choix sont de notre responsabilité, là, de notre choix. La case de l'humiliation, ça peut être la vie humble, pleine d'humilité, de simplicité devant Dieu et devant notre prochain. Ça dépend de nous, là aussi. Donc la vie chrétienne authentique, elle est faite d'épreuves, elle est faite de repentance, de renoncement, elle est faite d'humilité, elle est faite de simplicité. Comme pour Jésus, comme pour les apôtres, et déjà dans cet épisode, l'humiliation va avec la gloire. Alors si on conclut, on dira que cet épisode de la transfiguration nous parle du royaume de Dieu, en nous présentant Jésus comme le roi glorieux. Pierre et Jacques et Jean ont eu ce jour-là un avant-goût, en tant que disciples. Ils ont eu un avant-goût de la gloire éclatante à venir. Mais la gloire, c'est que le Christ, donc, c'est cette gloire que le Christ manifestera au dernier jour. C'est cette gloire qui nous est promise si nous appartenons au Christ. Voilà, merveilleux, merveilleuse promesse. Mais la gloire de cet épisode est déjà là, on l'a dit, même si elle est encore aujourd'hui cachée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu de toute éternité, il est mort, il est ressuscité, le royaume de Dieu est un trésor caché qu'il faut chercher en nous-mêmes et chez notre prochain. C'est un royaume que l'on trouvera en trouvant le Christ. Il est là, ce royaume, déjà dans nos cœurs, dans les vases d'argile que nous sommes. Il nous parle, le Seigneur est déjà là, dans nos cœurs, qui nous parle par sa parole. Il agit par son Esprit Saint qui vient habiter le croyant. Et Jésus-Christ, le roi glorieux, il est là, aujourd'hui, dans nos vies. Dans la lumière, au sommet de la montagne parfois, nous vivons ces expériences-là. Mais il est là dans nos vies aussi, dans l'obscurité, au fond de la vallée. Il est là, le Christ glorieux, dans nos jours de joie. Merci Seigneur. Mais il est là aussi, ce roi glorieux, et avec nous, dans nos jours d'épreuve. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité, il est là avec nous. Amen.